L'actualité francophone au Canada, les conséquences de l'attentat contre une mosquée de Québec en France, l'affaire Fillon, la droite s'interroge sur le maintien de François Fillon comme candidat à la présidentielle. La Belgique, une opération de santé publique et de communication pour lutter contre l'alcoolisme et le cancer. L'Afrique, après une longue rupture, le Maroc réintègre l'Union africaine. En Suisse, une votation à venir très serrée sur la fiscalité des entreprises. D'abord, les personnalités de la semaine. Côté belge, Nathalie De Vic, ce sont deux noms issus de la bande dessinée que vous saluez.
Philippe de Pierrepont et Éric Lambé, figures de proue de la BD belge d'avant-garde, récompensés le week-end dernier au Festival d'Angoulême, en France, l'un des plus grands rendez-vous BD sur le plan international. Ils ont reçu le Fauve d'or de la meilleure bande dessinée de l'année. Paysage après la bataille, c'est son titre. Un album de 400 pages sur le thème du deuil après la perte d'un enfant. Le jury s'est dit impressionné tant par le propos dur, fort, que le graphisme très épuré.
En Suisse, Pierre-Anne Chauffin, Roger Federer s'impose cette semaine.
Poster, affiche, page spéciale dans les journaux, la Federer Mania a déferlé à nouveau sur la Suisse alors que beaucoup ne voyaient pas le champion revenir après ses blessures qui l'ont éloigné des terrains pendant plus de 6 mois. Et puis, cela faisait tout de même près de 5 ans qu'il courait après un titre majeur. Mais le dieu vivant Federer, comme titrait le quotidien sportif L'Équipe, a bel et bien remporté à Melbourne son 18e trophée en Grand Chelem, ce qui a frappé les spécialistes du tennis. C'est son étonnant plaisir de jouer du haut de ses 35 ans déjà.
Charlotte Hydrac, en Afrique, la personnalité de la semaine, Étienne Tshisekedi, l'opposant congolais décédé mercredi.
Et Tshitshi, le vieux ou encore le sphinx de Limété, quelques-uns de ses surnoms, il avait 84 ans et derrière lui une intense vie politique. D'abord pilier du régime de Mobutu à l'indépendance, il est ensuite devenu l'éternel opposant, obstiné, très populaire. Étienne Tshisekedi disparaît dans une période cruciale pour la République démocratique du Congo, en plein dialogue politique après le maintien au pouvoir du président Kabila, au-delà de son mandat, et sans successeur désigné pour reprendre le rôle d'opposant. En chef.
En France, l'homme de la semaine, Louis-Marie Aurault, 68 ans, rédacteur en chef du Canard Enchaîné, institution de notre presse qui a révélé l'emploi fictif présumé de Pénélope Fillon. Louis-Marie Aurault, invité des télévisions et radios pour expliquer que dans cette affaire, il n'y a pas de corbeau, de complot, d'officine malveillante, mais simplement le travail de 3 journalistes du Canard qui ont étudié de près le patrimoine de François Fillon et lui ont demandé sans succès des explications. Louis-Marie Aurault, rédacteur en chef, heureux. Son journal a battu des records de vente cette semaine. Il a fourni 391 000 exemplaires aux marchands de journaux mercredi, le jour de la sortie du journal. À la mi-journée, tout était vendu. Personnalité de la semaine au Canada, Benoît Audet, vous avez retenu les 6 hommes abattus dans l'attentat contre la mosquée de Québec.
Oui, 6 hommes abattus de sang-froid par un homme de 27 ans au moment où il priait à la mosquée dimanche soir dernier. Parmi eux, des pères de jeunes enfants, des gens connus et respectés dans la communauté. Leur mort violente a ébranlé la petite communauté musulmane de la ville de Québec et a ému tout le Canada. Les messages de condoléances ont afflué tout au long de la semaine.
Le dossier de la semaine en Afrique, Charlotte Hydrac, le retour du Maroc dans l'Union africaine.
Après 33 ans de chaises vides, Rabat avait claqué la porte de l'organisation panafricaine en 1984, et cela pour protester contre l'admission du Sahara occidental, ce territoire contrôlé par le Maroc, mais dont le Front Polisario revendique l'indépendance.
Et depuis, changement de stratégie, un virage pragmatique, Charlotte.
Cette absence est devenue un obstacle à l'influence du royaume, notamment économique, en Afrique. Il a donc mené une intense campagne diplomatique. Le souverain a multiplié les déplacements sur le continent et malgré des résistances, notamment de l'Afrique du Sud et de l'Algérie, traditionnel soutien de la République sahraoui, le pari est réussi avec 39 voix sur 54. Pour le roi Mohamed VI, le Maroc a retrouvé sa famille.
Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi. Vous m'avez tous manqué.
Un discours en forme de déclaration d'amour. Le Maroc devient donc le 55e membre de l'Union africaine. Mais sur le dossier du Sahara occidental, le problème reste entier. Les positions n'ont pas changé d'un iota. Pour l'heure, pas question de suspendre la République sahraoui de l'UA. Rabat va donc devoir cohabiter avec son ennemi au sein de l'organisation et la bataille devrait continuer à travers une guerre d'influence et de procédures.
Le Canada, Benoît Audet, l'attentat visant la mosquée de Québec. Après le choc des premiers jours et les témoignages de sympathie envers la communauté musulmane, les leaders politiques ont commencé l'analyse de cette tragédie. Benoît, la question des débats identitaires a recommencé à faire surface.
Oui, au cours des dernières années, le Québec a été secoué par de nombreux débats identitaires, entre autres lorsque le Parti québécois a proposé sa charte des valeurs qui encadrait par exemple le port de signes religieux dans la fonction publique. Lundi, au lendemain de l'attaque, des leaders musulmans ont déclaré que ces débats, qui visaient en grande partie la tenue vestimentaire des femmes musulmanes, avaient entraîné la stigmatisation des musulmans dans une partie de l'opinion publique.
Et qu'est-ce que les politiciens avaient à leur répondre?
Le premier ministre Philippe Couillard a tenu à dire que les débats qui entourent l'intégration des nouveaux arrivants allaient se poursuivre. Même son de cloche du côté de l'opposition officielle, le chef du Parti québécois Jean-François Lisée, a ajouté que les débats devaient se faire, mais peut-être de façon plus apaisée. Les deux hommes ont reconnu que l'islamophobie était présente au Québec, mais pas plus qu'ailleurs, selon eux.
Benoît Audet, que propose le premier ministre pour la suite?
Philippe Couillard croit que les communautés présentes au Québec doivent faire un effort pour mieux se comprendre. Tout au long de la semaine, il a lancé des appels au dialogue. Son discours a eu des échos dans les pages du New York Times où on a salué son ouverture et ses paroles apaisantes, ce qui représente quand même tout un contraste avec le nouveau président des États-Unis, Donald Trump.
En France, l'affaire Fillon a marqué la semaine avec son lot de perquisitions, auditions par la justice, révélations dans la presse et déclarations. Pour tenir le plus longtemps possible, François Fillon n'hésite pas à endosser le rôle de l'homme à abattre, victime d'un complot. C'était mercredi.
Il y a ce que j'ai appelé, devant mes amis parlementaires ce matin, quelque chose qui ressemble à un coup d'État institutionnel. Je ne suis pas le premier qui est confronté à cette situation. Presque à chaque élection présidentielle, on a des affaires qui sortent dans ces conditions.
François Fillon affirme que sa femme travaille à ses côtés depuis ses débuts en politique il y a plus de 20 ans. France 2 a retrouvé jeudi une interview de Pénélope Fillon à un journal britannique datant de 2007. Elle dit en anglais exactement le contraire. Je la cite. « En fait, je n'ai jamais réellement été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. » Dans la presse, on juge que la position de François Fillon n'est pas tenable, qu'il n'est plus audible, on n'écoute plus le candidat, on ne pense qu'au Penelope Gate. Que sa femme ait travaillé ou non, les sommes dont elle a bénéficié sont considérables et choquent l'opinion. Impossible pour François Fillon de faire campagne sur le thème de la rigueur, de l'austérité financière après de telles révélations. Pour les journaux, ce n'est plus un problème de droit, mais de morale. Dans son camp, on craint désormais une déroute électorale avec un tel candidat. Il est grillé, disent des élus de droite. Qui pour le remplacer et de quelle façon? C'est le débat qui agite son parti. Selon les éditorialistes, la question ne serait plus « va-t-il renoncer ?» mais « quand ?» De nombreux observateurs de la vie politique s'interrogent. Qui va oser lui dire « il faut que tu arrêtes ?» En Belgique, Nathalie Devic, on a décidé de se montrer abstinent le temps d'un mois.
L'alcool, non. L'eau ferrufarigineuse, oui. C'est un Français qui le proclamait, hommage à Bourville, mais les Belges s'en sont directement inspirés pour cette opération baptisée tournée minérale. Pendant le mois le plus court, pour commencer, histoire de motiver les troupes, abstinence totale d'alcool. Beaucoup s'y sont engagés formellement sur le site de la Fondation contre le cancer à l'initiative de la campagne. Objectif, observer comment on se sent mieux sans. Argument santé évident pour les médecins alcoologues.
En tout cas, je pense que le gros avantage, c'est qu'on parle d'alcool, qu'on parle de consommation d'alcool et des effets nocifs de la consommation d'alcool. C'est la Fondation contre le cancer, donc rappeler quand même que le cancer, c'est la première maladie créée par l'alcool, c'est pas mal.
Surtout que les Belges sont, paraît-il, parmi les plus alcoolisés au monde, 85% de consommateurs de vin, mais surtout de bière, cela ne vous étonnera pas. Et malgré les efforts déployés par les brasseurs sensibilisés aux problèmes de santé, les bières sans alcool n'ont chez nous toujours guère de succès. Aujourd'hui, personne ne conteste que l'alcool augmente le risque de contracter de nombreuses maladies, outre le cancer, mais certains s'interrogent sur l'utilité de se priver durant un mois, si c'est pour replonger après. Eh bien si, rétorque la Fondation, qui table également sur l'aspect éducatif de cet engagement. Réfléchir à son comportement face à l'alcool, son rôle dans nos rapports sociaux, son addiction, et inciter à réduire à plus long terme sa consommation. Ça se fait déjà en Angleterre, au Canada aussi, où 10 000 Québécois, ai-je vu, relèvent le défi en même temps que nous, durant ces 28 jours. Bon, ici, on en est à 120 000 adhérents. Les plus alcoolisés peut-être les Belges, mais les plus courageux, semble-t-il, déjà une consolation.
La Suisse, Pierre-Henri Chauffat, la fin de la campagne de votation sur la fiscalité des entreprises s'annonce très tendue.
Oui, il reste une semaine pour convaincre les indécis. Notre sondage publié mercredi indique un match nul, 45% de oui, 44% de non. Et plus inquiétant pour les partisans de la réforme, depuis le premier sondage, il y a un mois, le non a progressé de 9 points. Les opposants ont convaincu des indécis, bien sûr, mais aussi des citoyens qui, au départ, soutenaient la réforme.
En deux mots, Pierre-Henri, qu'est-ce qui divise ainsi les Suisses?
Eh bien, il s'agit en fait d'abolir les statuts spéciaux pour les multinationales, une niche fiscale qui n'est plus tolérée à l'international. Sur ce point, tout le monde ou presque est d'accord. Sauf que le Parlement a enrichi le projet du gouvernement d'une série d'avantages fiscaux pour les entreprises. Les adversaires, gauche en tête, parlent de cadeaux ou de privilèges qui grèveront le budget de la Confédération de 3 milliards de francs suisses.
Et cet argument fait mouche, Pierre-Henri?
Eh bien, l'idée est que la classe moyenne fasse les frais de cette réforme via une réduction des prestations ou des hausses d'impôts. Cette idée a visiblement renforcé la défiance à l'égard des autorités, tout comme l'intervention dans le débat de l'ancienne ministre des Finances. Son projet a été déséquilibré, a-t-elle dit. En cas de non, il suffirait de revenir à l'original. Les partisans s'accrochent, eux, à la crainte de voir des entreprises quitter la Suisse. L'issue du scrutin est plus ouverte que jamais. C'est la mobilisation de chaque camp qui fera la différence, d'où une fin de campagne intense jusqu'au 12 février.
C'était l'actualité francophone. Merci de nous avoir suivis. Un seul site, lesmediafrancophones.org.